L'AJT du local.
À 12h15. Sur 107.9, 101.7, à l'autre radio, à Château-Gontier et puis à Laval aussi.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans votre émission quotidienne L'AJT du local. Aujourd'hui, près de 250 personnes étaient réunies à Château-Gontier pour rendre hommage au professeur Samuel Paty, assassiné à Conflans-Sainte-Honorine vendredi soir, nous y étions. L'Observatoire d'astronomie de Laval propose de nombreuses animations pendant les vacances. Nous avons rencontré Jérôme Gallard, l'un des membres très actifs de cet observatoire. Et le quatrième épisode de notre série à bord du food truck Le Sourire qui Régale, témoignage aujourd'hui de sa serveuse Aurélie. Mais tout de suite, on fait un point sur l'actualité en Mayenne ce midi avec Claire. Bonjour Claire.
Bonjour à tous.
Un point donc sur la propagation du coronavirus.
Le taux d'incidence augmente toujours en Mayenne. Il était mardi de 135,2 pour 100 000 habitants, en rappelant qu'il était au plus fort de la crise en juillet de 143 pour 100 000 habitants.
La Chambre de commerce et de l'industrie de la Mayenne publie aujourd'hui une étude sur la situation des entreprises mayennaises.
Au mois de septembre, 565 personnes ont répondu au questionnaire lancé par la CCI. Objectif, prendre le pouls des entreprises en cette période de crise et connaître le ressenti des patrons. En septembre, ils affichaient un regain d'optimisme, sauf dans les secteurs évidemment du tourisme et des cafés, hôtels et restaurants. Côté trésorerie, 53% des entreprises envisagent un chiffre d'affaires en recul cette année. On constate tout de même que les patrons sont prêts à investir pour les années à venir, ce qui est un bon indicateur pour l'avenir.
Et Laval aura un espace Mayenne.
Olivier Richefou, président du département de la Mayenne, confirme sur son compte Twitter ce matin la livraison fin mars 2021 d'un espace sportif, culturel et événementiel. L'information a été confirmée par l'architecte en chef du projet Yves Arnaud. Cet espace moderne et fonctionnel fera 8,5 hectares et accueillera de grands événements. Dans une interview de septembre pour France Bleu, le président du département avait confié vouloir pouvoir recevoir, par exemple, le Tour de France.
Le préfet de la Mayenne est en déplacement aujourd'hui.
Jean-Francis Treffel visite aujourd'hui l'écurie Bigeon de Bonchamp. Le préfet veut remettre au cœur de l'excellence mayonnaise le milieu équestre en allant à la rencontre des écuries de la région. Le préfet en aura profité pour essayer lui-même quelques activités avec les chevaux.
Et un hommage rendu hier à Samuel Paty à Laval.
Journée d'hommage national pour l'enseignant tué pour avoir montré des caricatures de Mahomet à ses élèves. Au square de Boston de Laval, à 18h, près de 300 personnes se sont rassemblées pour saluer la mémoire du professeur. Une minute de silence a été observée pour ce moment de recueillement.
C'était aussi le cas d'ailleurs à Château-Gontier, on en parlait en début d'émission devant la salle des fêtes hier soir. À 18h, plus de 200 personnes se sont réunies en hommage à Samuel Paty. Philippe Henry, le maire de Château-Gontier sur Mayenne, a été le premier à prendre la parole.
L'obscurantisme n'a pas sa place dans notre République. Faire le choix de vivre en France, c'est respecter les règles de nos institutions. C'est accepter nos différences. C'est porter collectivement la Déclaration universelle des droits de l'homme. Un enseignant déclarait, après l'assassinat de son collègue, que le meilleur hommage au talent pédagogique de Samuel Paty serait une multiplication de son cours au premier jour de la prochaine rentrée scolaire. Cette leçon sur la liberté d'expression pourrait être imaginée dans toutes les écoles de France. Ce serait alors une réponse pacifique, mais ferme, en direction de tous ceux qui veulent combattre les esprits libres.
L'association des musulmans de Château-Gontier, Mosaïque, a elle aussi dénoncé ce crime par la voix de Madame Samiri.
Ce crime odieux et inadmissible et honteux. Non à la haine. Non à la violence, non à la division, oui à la liberté d'expression, à la paix, à la tolérance et oui à l'union.
Un poème, pas en mon nom, sous-entendu pas au nom de Dieu, a ensuite été déclamé par une membre de l'association. Puis on a entendu Anaïs Olignon, professeure à Saint-Michel et Robert Schumann, qui a rappelé la devise de la République enseignée à ses élèves.
Liberté. Car elle mérite qu'on se batte pour elle, mais sans en mourir. Égalité, car aucune vie n'a plus de valeur qu'une autre. Fraternité, car cette tragédie, je l'espère, ne conduira qu'à une seule chose. Ensemble, nous dirons non. Non, en 2020, on ne doit pas être pris pour cible car on enseigne. Non, on ne doit pas avoir peur de faire son travail et de bien le faire surtout. Non, on ne doit pas mourir pour avoir appris aux jeunes qu'ils peuvent s'exprimer, ni ici, ni dans aucun autre pays.
une indignation et un combat partagé par les participants à l'image de ce retraité.
Ce sera notre modeste façon de soutenir Monsieur Paty et de lutter contre la barbarie. Jamais j'aurais pu imaginer qu'un professeur soit égorgé sur la place publique parce qu'il réalisait et concrétisait son cours de MC. Alors, c'est vraiment, ça dépasse tout entendement.
Et pour conclure le rassemblement, pas deux minutes de silence en tant que tel, mais un moment de recueillement au son de l'hymne européen. Et après donc ce moment d'hommage hier, on part un peu plus loin, on part du coup dans les étoiles, les planètes, comme à bord d'un vaisseau spatial. C'est ce que permet le planétarium de l'Observatoire populaire d'astronomie de Laval. On en parle d'ici quelques minutes après Mélanie Debiasio. Dream of a land, my soul is from. I hear a hand, stroke on the drum, shades of delight, go you, rich as the night, afro, afro blue, alien boy. Beautiful girl, dancing for joy, delicate word, shade of delight, go, go you, rich as the night, afro, afro blue. By the face with undulating grace, the gentlest one that's never away to some secluded place, shades of delight, go, go you, rich as the night, afro.
Tonight, afro, afro,
Vous êtes bien sur l'autre radio et vous écoutez l'agité du local. Embarquement immédiat pour l'espace avec Jérôme Gallard de l'Observatoire populaire d'astronomie de Laval qui organise pour les vacances notamment de nombreux ateliers planétarium et observation avec aussi quelques petites animations autour des fusées. On l'écoute. Donc ça y est, ce sont les vacances scolaires et avec elles de très nombreuses animations organisées un petit peu partout en Mayenne et notamment par l'Observatoire populaire de Laval. Je suis aujourd'hui avec Jérôme Gallard, justement un membre de cet Observatoire populaire d'astronomie de Laval. Et justement, au cœur même, j'ai envie de dire, de la machine, on est dans le planétarium. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce qui nous entoure là ?
On est donc dans une demi-sphère donc qui fait environ 5 mètres de diamètre et donc où sont projetées les étoiles. Là, on est en dessous de Saturne, là, qu'on a grossi comme si on était à quelques centaines de milliers de kilomètres de Saturne. Donc c'est un outil qui permet d'être en immersion un petit peu dans l'espace, comme si on était un peu dans une fusée, et de mieux comprendre un peu certains phénomènes. L'astronomie, c'est assez compliqué à expliquer sur un tableau, sur une feuille, hein, c'est parce que tout est en 3D, donc avec des mouvements assez complexes quelquefois. Donc ce planétarium, c'est vraiment l'idéal pour comprendre un petit peu ce qu'il y a autour de nous, les objets, puis comprendre leurs mouvements.
Donc vous le disiez, là au-dessus de nous, c'est Saturne, c'est ça ?
Voilà, c'est Saturne avec ses anneaux. Voilà, donc on a la possibilité d'aller complètement dans les anneaux et on voit les morceaux de glace qui constituent ces anneaux. Donc ça permet de faire le lien avec le télescope, où là on ne voit pas ces morceaux de glace, on voit simplement un disque autour de Saturne, mais c'est déjà très joli. Et donc ça permet d'aller un petit peu plus loin dans les explications sur les planètes. Par exemple, les anneaux de Saturne, si on ramenait Saturne près de la Terre, elle passerait tout juste avec ses anneaux entre la Terre et la Lune. C'est-à-dire que le diamètre des anneaux fait environ 300 000 km de... Mais comme elle a 1 milliard de kilomètres de nous, on les voit minuscules pour nous, mais ils sont gigantesques.
Et donc ce planétarium, là, vous l'avez dit, c'est un outil très utile, aussi bien pour les enfants, mais pour les grands aussi, j'imagine. Depuis combien de temps l'association a donc fait l'acquisition de ce planétarium ? Dès le début ?
Non, pas depuis le début. Alors pendant, on a commencé il y a très longtemps, hein, c'était en 1986, hein, l'observatoire. Donc on avait au départ un planétarium un peu la même forme que celui-là, mais c'était une projection optique, hein, donc c'est une sorte de diapositive qui était projetée. Donc c'était assez statique quand même. Et donc là, on a celui-ci depuis 10 ans, avec donc un logiciel, là, Spacecrafter, là, qu'on fait évoluer. Là, c'est une nouvelle version que j'ai installée il y a quelques jours, que j'ai présentée au public aujourd'hui.
L'idée, c'est forcément de transmettre un peu cette passion aux enfants. En tout cas, là, pendant les vacances, il y a pas mal d'animations pour les enfants. Qu'est-ce qu'on peut faire, justement, ce jeudi à 16h ? Alors, attention, l'atelier est complet, ça ne sert à rien de s'inscrire. Mais en tout cas, ça donne un peu une idée de vos activités. Il y a un atelier, justement, avec ce planétarium ?
Voilà, oui, il y a un atelier avec le planétarium. Donc, les deux animations, on va dire, phares qu'on fait en ce moment, qui reviennent régulièrement pendant les vacances scolaires. C'est une des animations familiales. Donc, on fait planétarium... où on voit donc les planètes, c'est assez basique, hein, c'est à partir de 4 ans, donc jusqu'à pour les adultes aussi.
Ah oui, si jeunes, ça marche aussi ?
Oui, pour les petits, ça marche aussi. On a des petits dessins animés aussi pour couper un petit peu le rythme, parce que c'est vrai que ça fait énormément d'informations, mais même pour les adultes aussi. Donc on a des petites histoires qu'on peut raconter pour faire un petit intermède, un petit peu entre chaque partie. Donc on a planétarium, et puis donc ça dure environ 2 heures, planétarium, et puis explication, construction et lancement de fusées à eau. Et puis on a la même chose, mais le soir, mais cette fois on fait planétarium et puis observation au télescope quand le temps le permet, sinon on explique un petit peu comment fonctionnent les télescopes.
Et donc j'imagine que l'après-midi est plutôt dédié aux enfants ou aux jeunes, en tout cas au sens large. La séance du soir, elle est ouverte aussi aux adultes ou aux familles en tout cas ?
Oui, tout à fait. Donc c'est aussi des séances familiales, mais c'est vrai que les plus jeunes viennent plutôt sur l'après-midi les fusées. On offre la possibilité, même si c'est un petit peu compliqué en ce moment avec la Covid, on a divisé par deux le nombre de places. Donc on propose sinon aux personnes de revenir, qui viennent dans l'après-midi aux fusées, elles peuvent revenir faire l'observation le soir. Elles ne feront pas le planétarium, mais elles peuvent refaire l'observation. Mais là en ce moment, on demande de réserver parce que c'est... dès qu'il fait beau, il fait pas toujours beau, et donc quand les personnes voient qu'il fait beau, elles viennent toutes en même temps, et donc c'est pas toujours facile à gérer. Ouais.
Une observation, j'imagine, au télescope, c'est différent d'être ici dans le planétarium. En quoi ces deux sortes d'observations, on va dire, sont complémentaires ?
Ben, ça permet de se repérer un petit peu, puisque c'est assez compliqué dans le ciel le soir de se repérer parmi les étoiles. Donc là, dans le planétarium, on simule le ciel le soir. Et donc on a un pointeur pour indiquer ce qu'il y a à observer, les formes des constellations. Donc ça permet un petit peu d'apprendre à se repérer dans le ciel, voir aussi les mouvements des étoiles, comment elles bougent quand on avance dans la soirée. Voir aussi, par exemple, sur les Jupiter, où sont positionnés les satellites. Et donc, bien voir que ce qu'on montre sur le logiciel, c'est bien la même chose que ce qu'on va voir au télescope. Donc, des petits détails aussi qui sont difficiles à voir au télescope. Donc, on le montre déjà dans le planétarium. Et puis après, les personnes, elles ont déjà une idée de ce qu'elles doivent voir. Et elles essaient de le voir aussi au télescope.
Donc, c'est plus facile, oui, en tout cas, quand on sait déjà bien quoi chercher, peut-être aussi de le voir au télescope.
Oui, tout à fait. Puis, il y a l'œil aussi qui doit être habitué. Hein. Donc, nous, il y a quelques fois, on voit bien certaines choses. Et puis, les personnes, elles regardent, elles ne voient pas du tout. Ce n'est pas qu'elles ont des problèmes de vue, c'est simplement que leur œil n'est pas habitué à observer dans l'obscurité. On voit bien, nous, quand on observe, même astronomes amateurs, souvent, il faut 2 ou 3 soirs d'affilée pour vraiment percevoir certaines nébulosités dans un télescope. Donc, même nous aussi, on a besoin de nous habituer à l'obscurité.
Donc ça veut dire que oui, l'œil doit s'habituer en fait.
Oui, l'œil doit s'habituer, c'est pour ça qu'on lutte aussi contre la protection, enfin pour la protection du ciel nocturne, parce que les lumières parasites qu'il y a un petit peu dans les villes et même en pleine campagne, hein, suivi d'un lampadaire quelque part qui éblouit, notre œil ne s'habitue pas à l'obscurité correctement, on n'arrive pas à voir les nébuleuses, on n'arrive pas à percevoir la Voie lactée, des choses comme ça.
Et donc, on le disait en présentation, vous êtes membre de l'Observatoire. Vous êtes plusieurs, j'imagine, bénévoles à animer ces sessions d'observation. Comment est-ce que vous-même, vous en êtes venu à vous investir dans cette association à l'Observatoire ?
Moi, j'ai commencé, j'étais lycéen, en fait. Hein, voilà, et puis, on a rencontré des personnes. J'étais avec des copains aussi qui faisaient ça. Puis, ça a démarré comme ça. Donc là, c'est vrai qu'aujourd'hui, j'essaie aussi de faire dans l'association qu'il y ait des jeunes qui se rencontrent pour échanger un petit peu entre eux, pour commencer un petit peu. Parce que l'astronomie, c'est quand même beaucoup de patience et on n'est pas toujours patient quand on est jeune. Donc pour ça que les fusées à eau, c'est bien, ça permet de s'occuper un petit peu. Parce que le télescope, entre les temps où il ne fait pas beau, le temps d'apprendre à servir d'un télescope, les périodes dans l'année où il y a peu de choses à observer parce qu'il n'y a pas toujours les planètes. Hein. Donc ça demande quand même pas mal de patience, l'astronomie.
Et c'est aussi pour ça que vous proposez, je crois, que l'Observatoire était labellisé, si je ne dis pas de bêtises, école d'astronomie. Donc pour apprendre justement, dès le plus jeune âge, à avoir des bons réflexes pour observer le ciel.
Voilà, oui. Alors on aimerait faire beaucoup plus, mais du coup là on fait ça plus individuel quand des personnes viennent observer. Mais c'est vrai qu'on est labellisé école d'astronomie pour pouvoir normalement organiser des stages de 2 ou 3 jours avec des soirées pour apprendre aux jeunes à se servir d'un télescope et puis observer après en autonomie. Et pour les adultes, on fait la même chose aussi.
Là, en tout cas, pour ces premières sessions, on n'est pas obligé d'être équipé d'un télescope ?
Non, pas du tout. Non, au contraire, il vaut mieux peut-être observer d'abord avec nos télescopes, puisqu'on a pas mal de télescopes. Les adhérents aussi des télescopes, ils peuvent présenter un petit peu leur domaine, parce qu'il y a plein de façons de faire de l'astronomie avec un télescope ou sans télescope. Et donc ça permet de voir un petit peu quel type d'instrument on a envie de se procurer.
Ça c'est plutôt des sessions individuelles, il faut vous contacter pour organiser
ouais,
ça.
Oui, voilà, là le 5 décembre, c'est un samedi toute la journée, là on a une formation étoile là, qui permet de se former. Soit on a un télescope, on a envie de s'en acheter un, mais déjà on apprend à se repérer dans le ciel, enfin on a tout ce qu'il faut pour après être relativement autonome.
C'est vrai que l'astronomie, c'est vraiment une discipline, en tout cas, qui, moi, de l'extérieur, me paraît assez inaccessible. C'est-à-dire pas forcément dès le début, sans aide, on se dit « waouh, ça paraît compliqué ». Et est-ce que, justement, on arrive quand même à voir des choses dès les premières séances d'observation, à apprendre assez vite ?
Ça, c'est pas en soi compliqué, c'est qu'il y a beaucoup de choses, hein, c'est-à-dire qu'on voit bien, si on prend 10 astronomes amateurs, souvent ils ont 10 façons de faire de l'astronomie différente, hein, il y en a certains qui sont plus dans les livres, moi je suis plus dans l'animation vers le public, certains sont plus dans la photographie, donc sont plus dans la recherche d'objets à l'œil nu, mais d'objets vraiment très ténus, puis il y en a d'autres qui sont plus sur l'espace, les fusées, choses comme ça, donc il y a plein de façons de faire de l'astronomie. Mais après, quand on commence, on peut aller très loin. C'est vrai que si on comprend les mouvements des planètes comme la Terre, déjà, c'est le principal. Puis après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de questions, souvent sur les trous noirs. Mais même nous, on ne sait même pas répondre, ni les astronomes. Donc, il y a des suppositions pour l'instant sur... Mais on ne comprend pas tout l'univers. Donc, c'est ce qui peut être des fois un petit peu frustrant pour certaines personnes qui aimeraient savoir tout. Mais voilà, c'est comme ça.
Et au sein de l'association, justement, vous êtes combien de personnes ?
On a une trentaine d'adhérents, mais après, il y a beaucoup de personnes qui sont passées à l'observatoire et puis qui ont acheté leur télescope ou qui font de l'astronomie chez eux et qui viennent moins souvent nous voir, mais qu'on va voir lors d'observations, choses comme ça. Là, en ce moment, on a 2 jeunes là, qui, grâce à un astronome, là, Sylvain Boulet, de l'Observatoire de Paris, de la Société Astronomique de France, ont fait des vidéos sur YouTube. Il y a une nouvelle chaîne YouTube Astroado, voilà, où ils ont, il y a 16 jeunes en France qui ont fait ça. Il y en a deux qui sont de l'observatoire. Voilà. On peut les retrouver sur la chaîne YouTube Astroado. Là, il y a deux vidéos de Florian qui a fait sur les bulles cosmiques. C'est vraiment chouette ce qu'il a fait. Ils sont parrainés par un astronome, enfin par une astronome, lui. Il y a El Nazé qui est de Belgique, je crois. Voilà. Et puis il y a aussi Thibaut qui a fait lui sur la gravité et qui est aussi parrainé par un logiciel. Et voilà, ils ont des vidéos complètement différentes. Puis il y en a une dizaine d'autres vidéos qui ont été faites, qui sont sorties là, il y a quelques jours sur la chaîne YouTube Astroado.
Donc là aussi, la passion, elle est déjà là chez eux. Comment est-ce qu'on en vient, encore une fois, vous disiez très jeune, à s'intéresser aux planètes, aux étoiles? Est-ce qu'il faut déjà aimer les matières scientifiques de manière générale, ou comment ça vient? Ou c'est, je ne sais pas, juste de l'observation dans le ciel et on se dit, bah, j'aimerais bien en savoir plus?
Ça peut être juste l'observation, observer la nature, lire un livre, quelque chose qui accroche à un moment donné. C'est vraiment avoir une paire de jumelles et puis observer. Sûrement, je ne saurais pas... Je crois qu'il y a autant de façons d'aborder l'astronomie qu'il y a de personnes. Ça peut être les missions spatiales, il y a plein de choses comme ça qui peuvent faire un petit déclic et puis qui ont envie de savoir plus. Et l'avantage de l'astronomie, c'est que les ressources, elles sont très facilement accessibles. C'est-à-dire quand il y a des découvertes, éventuellement, les scientifiques, les astronomes les gardent pendant un an pour les exploiter, mais souvent, ils sont trop envie de le raconter, donc souvent, quelques mois après, on sait exactement les dernières découvertes. Bon, en ce qui concerne les trous noirs, c'est très très compliqué à expliquer, mais sur des planètes et choses comme ça, là, il y a plein de choses. Là, par exemple, sur les anneaux de Saturne, on avait plein de découvertes qui ont été faites. Et quand il y a une conférence avec ces astronomes-là, à chaque fois, je n'ai pas le droit de vous le dire, mais quand même, je vous dis ça quand même, à vous dire à personne. Donc, il y a plein d'informations qui sortent très vite. Ce qui est beaucoup moins le cas quand même sur les fusées, quand même, où là, c'est plus industriel. Donc, il y a un peu des secrets industriels où on sait un petit peu moins rapidement ce qui se passe. Mais encore, ça passe souvent par les astronomes qui, eux, savent ce qu'il y a dans les fusées. Et donc, ça passe par eux plus que par les entreprises qui communiquent un petit peu moins sur leur dernière découverte. Bon, ça coûte aussi des milliards, donc on peut le comprendre, mais voilà.
Est-ce que vous avez observé un effet Thomas Pesquet, on va dire, puisque son aventure dans la station spatiale internationale a été très médiatisée, on va dire? Et alors, est-ce que vous l'avez vu, un regain d'intérêt, même s'il y en a toujours un, mais...
Oui, bien sûr. En plus, comme il est venu l'année dernière, même si ça a été juste pendant la crise, ça a été très compliqué. Mais je sais que les jeunes que j'ai vus, là, qui étaient souvent ces classes de primaire, et là, ils en ont gardé un super souvenir, même s'ils l'ont venu quelques secondes. Mais pour les jeunes, de toute façon, après, les grands discours, ça va être difficile de retenir ça. Mais c'est le simple fait d'avoir vu Thomas Pesquet. Enfin, ça a fait toute une... Pour eux, oui, ça les a beaucoup marqués, c'est assez surprenant, mais vraiment tous les jeunes qui l'ont vu, même si ça a été annulé par rapport à ce qu'ils devaient faire à l'origine, ça a été une grande partie a été annulée, mais ils ont vu Thomas Pesquet, ça les a marqués comme s'ils avaient fait exactement le programme prévu. Donc là, c'est assez réussi pour ça, oui, il est très fort au niveau de la communication, Thomas, oui. Ouais. Puis il y a Romain Charles maintenant aussi qui prend le relais, puisque lui c'est vraiment le Mayennais, et donc là qui est depuis quelques semaines ou quelques mois à l'Agence spatiale européenne et qui donc. Espère bien aussi diffuser ces connaissances-là. Donc on l'a déjà contacté là, pour qu'il vienne en Mayenne, mais il est aussi très chargé en travail.
Donc oui, vous espérez le recevoir bientôt ou ça va être compliqué?
Oui, je pense que dès qu'il pourra, maintenant il commence son travail, donc c'est comme un peu n'importe quelle personne, quand on commence son travail, on a moins de liberté. Donc je pense que d'ici quelques mois, quand il aura pris un petit peu ses marques, il saura un petit peu à quel moment il peut se libérer, et il peut revenir en Mayenne, et ce qu'il peut dire aussi, parce que c'est ça aussi la complexité des choses. Thomas Pesquet disait bien, il n'a pas le droit de tout dire, quoi. Hein, donc il faut vraiment faire attention à ce qu'on dit, même si lui se laisse un champ de liberté. De toute façon, comme je disais tout à l'heure, les astronomes, ils gardent des secrets, mais enfin, c'est des secrets pour pas grand monde, en fait. Ceux qui veulent savoir arrivent très bien à savoir tout ce qui se passe.
Ça sort assez vite, finalement. Très bien, bah, merci beaucoup. Et donc, on rappelle en tout cas ces ateliers qui ont lieu ce jeudi, qui sont malheureusement déjà complets, mais qui seront amenés à être reproposés à d'autres vacances. Donc, planétarium et fusée à eau, c'est à 16h. Et puis, une observation à 20h, peut-être même dehors, si la météo le permet. Merci, Jérôme Gallard, d'avoir été avec nous.
Merci à l'autre radio. Just been long and futile and brutal and
mind if you squint trying to recollect the bosom of your hoodlum love. You reach out and into the absence and gasp it. The vastness grabs you like an alien embrace, your face to its face. But in a dark and hateful star, an evil world, where would I ever be without you? How could I hope to seize the tablet of values and redact it? Foolish I know, but I'm about to surely be ending and trembling. You realize you never lived a day at all, and it's all your fault. It all seems unspeakably vile and wild. You wretch the memory of all you understood. The vandal lives into his hood. Where would I ever be without you? Could I hope to seize the tablet of values and redact them? Foolish I know, but I'm about to
des Dirty Projectors. Vous écoutez bien l'agité du local sur l'autre radio. Et depuis le début de la semaine, on embarque à bord du food truck Le Sourire qui Régale. Lancé depuis le 1er septembre dernier, il sert chaque jour entre 30 et 40 couverts. Sa particularité, ce sont des personnes en situation de handicap qui vous servent. Et la première personne que vous rencontrerez au food truck, c'est Aurélie, puisque c'est elle qui prend les commandes. Elle nous explique.
Alors, voici le menu. Il y a trois formules. Entrée plat, plat dessert et entrée plat dessert. Vous choisissez et moi je marque le pot de commande pour vous. Sur un petit carton, oui, c'est ça. Je entoure le plat pour la cliente qui veut toi. Pareil pour le dessert. En fait, je donne le numéro de la commande au client. Je dis c'est sur place ou emporté. Après, quand c'est fini, je donne à Sylvain. Très très bien. Oui. J'aime beaucoup parler avec les gens. Au début, j'étais un petit peu timide. Ça, c'est sûr. Mais après, maintenant, très très bien. Vraiment, je n'ai pas eu de difficultés. Mais moi, c'est un petit peu, comment dire, différent parce qu'en fait ce projet que je travaille aujourd'hui ici, j'avais ma éducatrice à Chopecourche. Elle m'a dit tout de suite que ça va vraiment te plaire, Aurélie. J'ai jamais connu ça avant que je travaillais ici, bien sûr. Et là, je peux dire que ça permet de changer de travail. Parce que avant, j'ai travaillé en milieu ordinaire, au groupe Pronusia. Sauf que j'étais licenciée pour la première fois. Quand j'ai appris que j'étais licenciée, j'étais pas très bien. J'étais un petit peu déçue, mais quand même, j'ai eu quand même la chance d'avoir tes parents et ma tutatrice qui m'a dit « Tu t'inquiètes pas, tu vas quand même trouver quelque chose ». Et c'est grâce à Chopecourche que j'ai trouvé ce emploi-là. Je me sentais vraiment contente de trouver un travail, parce que c'est pas évident de trouver un travail comme ça. Avant, quand je travaillais au groupe Onusia, j'étais pas la seule à être licenciée. Il y avait plein de monde et trop du bien. Ah oui, j'avais vraiment besoin parce que j'arrêtais pas de dire à mes parents, j'espère que je vais trouver, parce que j'arrêtais pas de dire ça. Et puis, et pour finir, quand ma tutrice m'a dit que ça va beaucoup te plaire, enfin, j'étais contente. J'ai envie que ça continue, oui.
Et demain, vous entendrez le témoignage d'un autre de leurs collègues, Hubert, c'est lui qui chapeaute l'équipe.
30 minutes tous les jours.
Oui, tous les jours, c'est 30 ça. Minutes.
Du lundi au vendredi sur l'autre radio.
C'est le moment de jeter un petit coup d'œil à l'agenda de ce week-end, avec notamment les Mouillotins qui organisent leur vide dressing ce samedi. Ce sera dès 14h à la salle du FCC à Cossé-le-Vivien. Vous pourrez y trouver vêtements, chaussures, bijoux, accessoires hommes, femmes et enfants. L'objectif, c'est de récolter des fonds pour le Festival des Mouillotins qui se tiendra peut-être, si tout va bien, ce printemps 2021. Une rencontre dédicace avec Agathe Portail. Elle est organisée samedi à 16h à la librairie Emlire de Laval. Elle y présentera son roman policier L'année du gel. Agathe Portail est originaire de la Mayenne, mais elle habite désormais dans le Bordelais. C'est d'ailleurs le lieu de l'intrigue de son roman. Et puis le festival J2K se poursuit à Laval avec notamment ce samedi une battle de breakdance. Avec les meilleurs danseurs du Grand Ouest, ce sera à la salle polyvalente de Laval à 14h, donc samedi. C'est gratuit sur inscription sur le site internet du festival J2K. L'événement en tout cas du samedi est organisé avec l'association Back to Basics de Nantes et l'association K-Danse de Laval, bien sûr. Toutes les infos donc à retrouver sur le site du festival J2K. C'est la fin de notre émission L'Agité du local. À suivre à 19h, la sagesse de Tugue autour de la liberté individuelle. Et à 21h, All Blues. Quant à moi, donc, je vous dis à demain à 12h15 pour une nouvelle édition de L'Agité du local.
Reportage.
Invité interview.
Voilà, c'est L'Agité du local.